dit dans les deux premières conférences. Est-ce que vous auriez idée de pourquoi, lorsqu'on a rajouté ceci, enfin, on a ajouté à ceci un sac pour pouvoir gérer l'air, hein, ça s'est appelé une cornemuse. On a parlé de corne. Qu'est-ce que c'est que corner?
On a parlé des...
sans parler des dérives que j'ai notées.
Corner,
à l'origine, c'est faire vibrer un corps, bien en soufflant dans la corne. Hein. Et donc, nous vient l'idée de faire beaucoup de bruit. Ainsi, les cornards d'Arras, c'est gens que je suppose en majeure partie jeunes et mâles, qui allaient faire beaucoup de bruit dans les rues, les cornards. Voilà, c'est une supposition. Une supposition qui m'est venue, qui a été appuyée, notamment le jour où une collègue de l'époque me dit « Mais alors pourquoi on appelle la cornemuse une cornemuse, puisque sur ta muse, il y a déjà une corne ?» Ben oui, effectivement. Alors si la corne est déjà sur la muse, pourquoi on parle de cornemuse? Peut-être que ça n'a pas à voir avec la corne directement, mais peut-être que faire beaucoup plus. Voilà, c'était une petite parenthèse que je demanderais pour faire un petit peu écho à ce dont j'ai déjà parlé ici et dont je vais reparler tout à l'heure. Ben, tout d'abord, merci à vous d'être là ce soir. Moi, j'y suis avec grand plaisir. Je vais vous lire un extrait de Flamenca, dont je vous ai déjà lu un extrait traduit par mes soins. Cette fois, je ne vais pas vous lire un extrait traduit par mes soins. Je vais vous lire un extrait traduit par les soins de René Lévy, qui a le mérite d'avoir publié beaucoup de chants et de textes. J'y viendrai quand même à cette traduction, mais avec une problématique à laquelle je n'ai pas encore vraiment réfléchi. Vous allez voir, il y a là un jeu entre Adamar et Amar, être aimant ou amant. Effectivement, la différence est moins présente à l'oreille dans le français d'aujourd'hui que dans le provençal d'alors. Donc ça va vous poser un problème dans la traduction pour le rendre. Vous allez comprendre pourquoi, je pense. Voilà donc des propos de Guilhem, vous en avez parlé, ce chevalier parfait qui apparaît dans le roman de Flamenca, alors que Archimbaud a fait enfermer son épouse dans une tour pour la protéger des éventuels courtisans dont il se sent jaloux par avance, avant même qu'il ne soit apparu. Et voilà que le courtisan est apparu, c'est Guilhem de Nevers, un Guilhem, hein, qui guille. Je vous l'ai dit dans la première séance, guiller, c'est une forme de tromperie par ruse qui souvent joue de l'apparente naïveté. Et donc ce Guilhem qui est dans le roman décrit comme un chevalier parfait auquel il ne manque qu'une chose, c'est d'aimer. S'est convaincu lui-même qu'il allait aimer l'amante parfaite, c'est-à-dire Flamenca, celle qui est belle, avenante et bien instruite. Et donc il a rencontré Flamenca, qu'il aimait sans l'avoir vue. Et dans ses rêves, amour, qui est féminine, amour, dans nos anciens langages et encore dans la déclinaison plurielle aujourd'hui. Et amour l'a conseillé. Et pourtant, il n'est pas tout à fait convaincu des conseils d'amour. Il y a un proverbe chez les laïcs, dont j'éprouve maintenant la vérité. dit, supporte bien le bien qui te vient. Supporte mal le mal fait de même. Je me plains de vous et cela ne me sert de rien. Vous ne me daignez même pas m'entendre. Vous devriez bien me dire un mot, au moins qui m'apporterait quelque réconfort. Mais c'est vous qui avez raison, moi j'ai tort de me laisser abattre aussi vite. Je ne dois pas m'estimer encore si malheureux. Je ne suis pas venu ici chercher pour moi. Un amant doit avoir un cœur de fer. Et rien que par le nom, je le prouverai. Que tout amant au cœur sincère doit être plus ferme que l'aimant. Car aimant, Adamar, Alimans, car l'aimant est composé. Amant est tout simple. Il n'a point de parti. Aussi offre-t-il plus de résistance, dit le traité. Les éléments perdurent parce qu'ils sont simples. Les composés où ils entrent se corrompent plus facilement. Un contraire y détruisant l'autre. Amour est pour ainsi dire un élément simple et pur, clair et brillant. Souvent, de deux cœurs, il fait un, se mettant également en chacun. Au-dedans, il est un, au-dehors, il est deux. Avec un seul désir, il lie deux cœurs. Mais s'ils ne se partagent pas également entre eux, il n'y pourra demeurer longtemps. En effet, celui des deux, où il sera en moindre quantité, admettra d'autres éléments contraires, car un cœur a besoin d'être rempli. L'amour, pour cette raison donc, n'y dure point, car il y en a trop peu et il ne se maintient point égal à lui-même. En effet, l'amour est tel par nature qu'il ne peut souffrir de partager un cœur avec un compagnon. Si on y en introduit un autre, quel qu'il soit, il meurt. Il veut avoir tout un cœur pour lui seul. C'est à cette condition qu'il dure toujours. Amour ne se comporte pas comme une source. Voilà donc le discours d'un clerc, on suppose, puisque on ne connaît pas l'auteur de ce roman de Flamenca, mais il y a fort à parier qu'il s'agisse d'un clerc donc, issu de l'école cléricale. Et qu'enseigne-t-on à l'école cléricale à l'époque? L'essentiel, la base de l'enseignement à l'époque, c'est ce qu'on appelle les sept arts libéraux. Et ces arts libéraux, ils se divisent en deux parties. Le trivium, la grammaire, la dialectique et la rhétorique, et le quadrivium, la musique, l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. Et le trivium, dont les arts sont consacrés au langage, à la parole, est alors considéré comme un préalable à l'enseignement des quatre autres arts. La grammaire, la dialectique et la rhétorique. La grammaire parle, la dialectique enseigne le verbe,
la rhétorique le colore. Voilà donc les arts que l'on enseigne comme étant un préalable à l'enseignement, donc à la compréhension des autres arts du quadrivium, qui sont donc la musique, l'arithmétique, la géométrie et l'astronomie. La musique chante, l'arithmétique compte, la géométrie pondère et l'astronomie explore les astres. Donc ces arts du quadrivium consacrés aux mathématiques. Et dans les arts consacrés aux mathématiques, la musique. Car la musique est une question qui touche beaucoup aux mathématiques. Car les mathématiques touchent beaucoup à l'harmonie. Depuis des siècles, on poursuit une connaissance du monde, une compréhension du monde, qui passe beaucoup par les mathématiques, par la science des nombres, par l'arithmétique, pour essayer d'en comprendre l'essence. Cette essence du monde étant, pour certains, et moins pour d'autres, mais de plus en plus pour l'ensemble, liée à une émanation divine. C'est donc, à travers la science des nombres, une recherche de l'harmonie voulue par Dieu, à laquelle on s'adonne. Et une des expressions de ceci, c'est ce qu'on a appelé finalement le nombre d'or. Vous avez déjà entendu parler du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est un regard sur l'esthétique des proportions. Une des façons simples d'en parler, est à mon avis cette définition très mathématique et très simple, très schématisée. Une esthétique des proportions, la recherche de proportions harmonieuses, qui sont considérées, si on prend deux segments de taille différente, vont être considérés comme harmonieux dans leurs proportions, si l'un A et l'autre B, plus petit, par leur somme, et la division de cette somme par la valeur du plus grand des deux est égale au plus grand, au rapport du plus grand sur le plus petit. Mais c'est, on est dans l'air, comme ça. Je vais vous en donner un exemple plus concret à l'imaginaire. 8 sur 5. Si on a par exemple un verre de 8 pieds suivi d'un verre de 5 pieds, on considérera que les proportions sont harmonieuses. Proportions harmonieuses dans la poésie, proportions harmonieuses dans la musique. Parce que la musique se traduit aussi en termes mathématiques. Les fréquences, ce qui pour nous définit les sons, se traduisent en mathématiques. Dans la peinture, il va y avoir une recherche de cette harmonie aussi. Harmonie des formes dans leurs relations entre elles, harmonie des couleurs. Moi qui suis daltonien, je sais bien que les couleurs, dans notre compréhension, peuvent avoir une expression mathématique. Vous voyez, la couleur, ce n'est pas une chose a priori qui existe véritablement, c'est une chose que l'on perçoit et comment fonctionne notre appareil pour percevoir ces couleurs, bien autant qu'on arrive à le comprendre à travers des notions mathématiques. Et on peut alors définir les couleurs comme des longueurs de ronde qui sont exprimées par un chiffre et son exponentielle. savoir qui sont daltoniens, parce que, en fait, pour un daltonien, c'est simplement l'exponentielle qui change et qui fait sauter une couleur qui est en fait gamme à une autre couleur. Alors, il y a les daltoniens complets qui voient tout en noir et blanc, et pour la plupart des daltoniens dont je suis, c'est tout simplement certaines couleurs très très précises qui sautent d'une gamme à l'autre. Expression donc dans la musique, dans la poésie, dans la peinture, dans l'observation de la nature. Certains ont découvert ou cru découvrir le nombre d'or dans la nature, dans les proportions liées à la disposition des pétales d'une fleur, dans les proportions de la disposition des feuilles sur une branche. Nombre d'or qui est aussi particulièrement, et peut-être surtout particulièrement, présent dans l'architecture. L'architecture, à l'époque dont je parle, est l'architecture qu'on a dite romane. Là, je fais appel aux visions que vous avez éventuellement, aux images que vous pouvez avoir de l'architecture romane, qui se caractérise avant tout par la voûte, qui a remplacé le linteau de bois de façon très avantageuse, mais peut-être au-delà, la voûte est un symbole de religion, quelque chose qui relie les hommes entre eux. Et c'est surtout une architecture qui est toute en rondeur. Il y a un côté très agréable et rassurant, j'ai envie de dire. Contrairement à d'autres constructions qui sont aussi une expression de la religion, des constructions qui ont été des formes de tension vers Dieu, de l'homme voulant se mettre à la hauteur dans son expression architecturale, à la hauteur de Dieu, tendre vers Dieu, ou au contraire, dans cette architecture romane, avoir une architecture qui est à notre mesure, à la mesure des hommes, comme croire en Dieu ou croire en Dieu. Croire qu'il y ait peut-être des lois qui soient extérieures à nous-mêmes et vers lesquelles on va tendre, croire en Dieu. Ou croire en Dieu, croire que Dieu est en nous et que c'est en nous qu'il faut en chercher l'expression. J'ai dit la semaine dernière à quel point me touchait cette valeur, parmi les autres valeurs de la courtoisie, qui est la mesure. Donc, ces valeurs de la courtoisie, je les rappelle rapidement. La prouesse, le prix, l'honneur, la valeur, l'honnêteté, la largesse. Tu arrives à écrire. La largesse, soulasse aussi, la capacité à développer un discours agréable, le sens et la mesure. Je vous ai dit la semaine dernière, en parlant de Père Cardinal et en rappelant les textes que j'ai pu vous dire ici, que ces relations dans ces textes à la religion sont une exception dans la poésie des troubadours. Enfin, font partie des exceptions, ce n'est pas une généralité. La poésie des troubadours n'est pas d'une inspiration catholique. D'église romaine. Mais ces sens d'harmonie, de mesure, de proportion à l'échelle de l'homme sont bien présents dans cette poésie. Une poésie qui arrive un moment où, j'ai dit dans la première conférence, la vie est relativement aisée, relativement à ce qui sera juste après, relativement à ce qui était juste avant. Ce n'est pas une question de s'en faire une vision angélique. Il y avait des choses dures et brutales à l'époque aussi. Mais bon, la météo est clémente, les cultures sont productives, il n'y a quasiment pas de grands conflits guerriers, des petits conflits locaux. La population est en expansion, en croissance démographique forte à l'époque. On défriche beaucoup, le commerce fonctionne bien. Les routes sont améliorées, les échanges sont facilités. Et culturellement, c'est aussi une période qui s'exprime de façon riche. Donc, une période relativement aisée et durant laquelle les pouvoirs sont morcelés. Alors, j'ai cru bon, la semaine dernière, de préciser, je crois que c'est bon que dans cette compréhension des choses-là, eh bien, il y a mon avis personnel, sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais que je peux résumer comme une envie, encore aujourd'hui, de voir l'humanité fonctionner en petits groupes, en économie locale, on pourrait dire, de façon peut-être anarchisante, plutôt que dans les grandes sphères où les médias sont nécessaires et multipliés pour arriver à communiquer. Donc cette période où les pouvoirs sont morcelés, à mon avis, a une influence sur la spiritualité à l'époque et sur l'émergence de cette poésie. Puisque la manière dont cette... quand il va y avoir la croisade en Albigeois, ces seigneurs locaux qui se guerroient les uns les autres régulièrement vont tout à coup ressentir quelque chose qui pourrait les porter à une unité. Ces seigneurs locaux du Sud-Ouest sont particulièrement défiants vis-à-vis de la couronne française, du pouvoir français. Ils sont particulièrement défiants vis-à-vis du pouvoir anglais, même si le pouvoir anglais, par le lignage de Guillaume d'Aquitaine, le premier troubadour, va à un moment donné se trouver mêlé à leur propre culture. Et il semble qu'il y ait eu des volontés, des recherches, notamment de la part du roi d'Aragon. Je ne sais pas si vous avez retenu ce nom du roi d'Aragon, de Pierre d'Aragon, qui est revenu déjà dans plusieurs vidas que je vous ai données. Il semble qu'il y ait eu des volontés du roi d'Aragon de créer une entité importante autour des Pyrénées, du côté des Pyrénées, et là encore, il ne semble pas qu'il ait reçu un accueil très favorable. C'est-à-dire que il semble que ces seigneurs locaux étaient bien dans leur seigneurie locale. Ils n'avaient aucune envie de créer une fédération pour résister aux autres pouvoirs de l'époque. Mais au moment où leur culture a été mise en danger et fortement atteinte par cette croisade en Albigeois, il y a un mot, une valeur de la courtoisie que j'ai oubliée la semaine dernière, je vous ai dit tant mieux, je vous en parlerai aujourd'hui, qui s'est exprimé de façon de plus en plus forte. Ce mot, c'est parage.
parage.
On parle aujourd'hui de la société de parage. Parage, je vous en ai parlé au tout début de la première conférence, ça se traduit par noblesse. Par, c'est un compagnon, un par, un père. Parage, appartenance, parenté, l'idée de faire partie d'une même collectivité. Dans tous les Sirventes, ces textes donc polémiques, ces textes attachés à une cause qui ont émergé au moment de la croisade en Albigeois et après, eh bien, ce mot de parage apparaît de façon de plus en plus fréquente. Et à mon sens, ce mot décrit l'idée d'une bonne entente dans sa collectivité, dans le cercle de personnes qui se retrouvent dans une collectivité. Et c'est une des raisons qui me fait parler à propos du XIIe siècle, particulièrement d'un âge d'or. On peut intituler la première conférence l'expression d'un âge d'or. J'ai une amie qui a écrit un texte provocant qui me plaît beaucoup et qui s'intitule « Pourquoi l'homme du XIIe siècle n'a pas existé ?» et qui parle, ce texte, de tous les excès observés dans les siècles précédents, dans les siècles suivants, peut-être surtout, et de la manière dont le XIIe siècle a laissé peu de marques. Parce qu'à mon sens, effectivement, cet homme du XIIe siècle a fait des choses à sa mesure, à sa proportion. Il semble qu'à cette époque-là, l'humanité a ambitionné des choses à sa mesure, et non pas dans la démesure, dans ces constructions, par exemple, des édifices religieux qui tendent vers Dieu, qui cherchent à atteindre Dieu. Là, on est dans la démesure. Et durant ce que j'appelle donc un âge d'or, qui s'exprime aussi comme dans toute l'idée de l'âge d'or, avec ses détracteurs, avec ce père cardinal qui vient se plaindre du monde qui a perdu le sens, avec ce Bertrand de Borne qui vient se plaindre du fait que les valeurs de la courtoisie tendent à disparaître. Mais on est déjà à la fin du XIIe siècle et puis dans le XIIIe. Durant cet âge d'or, se développe donc cet art profane qui est l'art des troubadours. Un art profane, puisque jusque-là, l'écrit poétique en latin était dédié à Dieu. Et là, cet art profane s'exprime dans la langue rustique, dans la langue romane, dans la langue parlée communément par tous. Attention, on ne peut pas y entendre, comme certains vous diraient très rapidement, une démocratisation de la poésie et du savoir. Donc c'est l'expression d'une culture locale. Une culture locale qui s'exprime dans la langue locale. Et c'est dans une certaine mesure, de façon plus ou moins voulue, une certaine rupture avec l'Église romaine qui va reprocher à cette poésie, finalement, à travers l'amour, de proposer une inspiration, à travers l'amour terrestre, travers l'amour entre hommes et femmes, de proposer une inspiration d'essence terrestre. Ce que je vous l'ai dit, c'est que amour, cette fine amour chantée par les troubadours, c'est un amour inspirateur. À travers l'amour, on va non seulement se sentir appelé à trouver, à composer ces vers, mais on va se sentir inspiré à exprimer le meilleur de ses qualités. C'est donc une inspiration d'essence terrestre. Ça peut nous paraître complètement abscons aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était très important. L'inspiration devait être d'essence céleste. Donc il y a une certaine rupture dans cette poésie, une forme de localisation de la culture qui s'exprime dans la langue du terroir. Je mets de côté, dans tout ce que je vous dis, les textes qui sont des actes de commerce ou des actes de justice, mais jusque-là, effectivement, la quasi-totalité de ce qu'on connaît était écrit en latin, consacré à la religion. Et la valeur du livre, à l'époque, s'en ressent. Pour d'autres raisons, le livre a même valeur, mais la valeur du livre s'en ressent. Vous savez ce que c'est qu'écrire un livre à l'époque ? À écrire un manuscrit ? C'est non seulement un copiste qui est là avec de l'encre qu'il a fallu, pour laquelle il a fallu mélanger deux ou trois éléments pour la constituer, qui est là avec un calam. Un calam, c'est un bout de roseau, je reviendrai sur ce mot calam un peu plus tard, qu'il faut tremper dans l'encre pour écrire une lettre, deux, parfois même pas, et puis là, il faut de nouveau tremper. À chaque fois qu'on trempe, il faut un petit peu tapoter son calame sur le bord du récipient pour l'encre, pour ne pas avoir trop d'encre, parce que si on a trop d'encre, eh bien, je vous parle en connaissance de cause, hein, on fait une grosse tache sur le parchemin. Alors là, j'ai parlé de l'encre et du geste simplement pour dépasser le calame, mais il y a encore le parchemin, il a fallu abattre les troupeaux et travailler les peaux. Bon, c'est un travail énorme, que la création d'un livre manuscrit. C'est un travail énorme qui est réalisé par des moines copistes pour des textes touchant à la religion. Et là, on va consacrer ce travail à des écrits profanes qui chantent l'amour, pour beaucoup, entre un homme et une femme. Ces chansonniers qui ont été, pour les plus anciens d'entre eux, on a commencé à avoir, enfin, commence à avoir des chansonniers, peut-être avant, on ne les a pas, à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Quelques mots sur ces chansonniers. Une quarantaine de manuscrits nous rapportent des chants et des écrits de troubadours. Une quarantaine. La semaine dernière, on a parlé de quatre. Quatre manuscrits contiennent des notations musicales. Une quarantaine de manuscrits, dont quatre contiennent des notations musicales. La question m'intéresse parce qu'elle est ressortie la semaine dernière. Or, je vous disais, je crois, pendant la première conférence, c'est une des problématiques, c'est qu'aujourd'hui ces chants sont produits essentiellement par des musiciens, et effectivement certains ont tendance à retenir qu'il n'y a que quatre chansonniers, parce qu'il n'y en a que quatre pour lesquels il y a une musique notée. Cette notation musicale, je l'ai évoquée rapidement la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle la notation nomatique, c'est-à-dire des rectangles qu'on trace avant les chansonniers des troubadours, tout simplement sur l'espace de la page, ça nous donne des images de la ligne mélodique, mais au XIIIe siècle, la portée est apparue. On a donc plus facilement une notion de l'écart entre ces notes, mais pas de barre de mesure,
pas de notation rythmique. Et pourtant, c'est assez aisé à aborder parce que, en fait, cette notation musicale correspond au texte. Et si la musique notée n'est pas rythmée, le texte, lui, l'est. Donc, on va se rapporter à la rythmique du texte pour comprendre la rythmique de la notation musicale. Je vous dis ça, c'est aussi pour faire le lien qui est constant entre musique et chant à cette époque-là. Donc, une notation musicale qui est rythmée par les mots. Je vous disais aussi dans la première conférence que chanter n'a pas toujours voulu dire que émettre une mélodie avec la voix. Chanter a aussi eu une signification dans le dictionnaire ancien, donc dans l'usage ancien, de déclamer avec théâtralité. Et je vous donnerai l'exemple de cette expression: que me chantes-tu là? Qu'est-ce que tu rapportes à mon sens? Chanter, c'est rapporter du sens dans une période où le média essentiel, quasi unique, c'est effectivement la parole, le chant. On a donc bien une partie de ces chants de troubadours qui sont accompagnés d'une mélodie, la majeure partie qui n'en est pas accompagnée. Pour une bonne partie de ces chants qui ne sont pas accompagnés d'une notation musicale, j'imagine qu'effectivement il y avait une mélodie. Pour une autre partie, je pense qu'il n'y avait pas de mélodie parce que ce n'était pas, à mon avis, destiné à être chanté au sens où on l'entend aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait un accompagnement des instruments, par des instruments de musique? Je vous le disais, les représentations nous montrent un, deux musiciens, jamais plus. J'imagine pas là un grand ensemble musical pour accompagner un chant de troubadour. On imagine plutôt le contraire, un chant peut-être parlé, souvent chanté, parfois accompagné d'instruments, mais le plus souvent on peut penser, comme c'est ce que je pense, des instruments, une musique, une lacque pour ponctuer le chant et non pas pour le porter. Ces instruments, les instruments de prédilection des troubadours et des jongleurs dans la représentation, l'heure qui passe, je ne vais peut-être pas avoir le temps vraiment de m'arrêter sur la représentation, c'est-à-dire comment on peut interpréter ce sujet. Ces instruments de prédilection, ce sont la vielle à archet. Vielle, viol, viol de gambe, violon, archet, vielle à roue aussi, enfin, je veux juste pour la suite, hein. Au temps des troubadours, c'est la vielle à archet. La vielle à roue, c'est simplement qu'on a toujours un instrument à corde frottée, sauf que plutôt que d'être frotté par un archet, maintenant frotté par une roue. Frotte les cordes. Donc la vielle à archet, la harpe, et le luth. Luth à la oud, le oud, le luth. Finalement, ce qui est le plus important peut-être à savoir, et vous touchez en deux mots d'archéomusicologie, ce qui est peut-être le plus important à savoir, c'est que c'est un bout de roseau. Ce n'est pas. Que la balalaïka et la famille des luttes, ou des choses comme ça, c'est simplement se représenter les choses. Qu'est-ce qu'on avait comme moyen à l'époque pour fabriquer un instrument de musique? Qu'est-ce qu'on avait comme outil? Alors aujourd'hui, quand on voit un oud, il y a à peu près ce que c'est qu'un oud, le luth oriental, une grosse caisse en lamellée collée avec son manche, hein, ses cordes en boyau si possible. Ben, ça devait être très rare à l'époque. C'est la filiation du oud
Al-Oud lutte, le Oud aujourd'hui, avec ses amis les collègues. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'époque, de toute évidence, pour produire un instrument tel que le Oud qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, il fallait énormément de temps. Lamellé collé, ça veut dire des lamelles de bois assemblées ensemble et collées. Ben non, moi quand j'ai pas tous les outils d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre une caisse, enfin, prendre un bout de bois et creuser directement dedans. Donc les instruments, pour la plupart à l'époque, vont être monoxyles d'un seul bout de bois. Bon. Ce qui est important. Ce qui est important parce que si on ne travaille que sur un seul bout de bois, ben vous représentez la chose. Si je fais une caisse comme ça, non seulement là je vais devoir creuser longtemps, mais au moment où je vais jouer, j'ai intérêt à être sacrément musclé du dos. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous parler de plusieurs choses à travers cette question. Je vais vous parler de l'archéomusicologie, qui est une recherche de reconstitution des instruments au plus proche de ce qu'on peut imaginer qu'ils étaient à l'époque. Et vous dire qu'en fait, on n'en a aucune certitude. Parce que, qu'est-ce qu'on a? Des instruments de l'époque? Non, on ne les a pas. De temps en temps, on a retrouvé des choses à peu près en état. À Charavim, qui est maintenant connu grâce à... on connaît les chansons, ouais, les explications sur les... sur le rapport à une thèse, sur les chevaliers paysans à Charavim. Et effectivement, à Charavim, aujourd'hui encore, il y a des gens qui mènent des fouilles qui sont fructueuses. Et on a notamment retrouvé ce qu'on appelle souvent aujourd'hui... des muses dans le fond du lac. Alors, non seulement on n'a jamais pu en jouer, mais en plus elles sont parties en poussière, si j'ai bien compris, parce que ça n'a pas été suffisamment protégé. Quand on a des instruments qui sont parvenus dans un état à peu près correct, les instruments à cordes notamment de cette époque-là, on a fini par établir avec le temps qu'ils avaient été transformés dans le temps. Donc ils ne nous attestent pas exactement d'une construction à l'époque. On n'a pas d'exemple de ces instruments. Alors qu'est-ce qu'on en a? On a des images. Ah, des images. Dans les chansonniers des troubadours, je le dis un peu vite, mais c'est quasiment la réalité, dans les chansonniers des troubadours, effectivement, on a des images de nos troubadours. Bien comprendre qu'ils soient du nord de l'Italie, du nord de l'Espagne, ou quelque part dans le sud de la France actuelle, ben, ils avaient trois costumes différents, ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même enlumineur qui a fait tous les dessins. Et lui, il a dessiné d'après son modèle, puis d'ailleurs, il n'avait absolument rien à faire de savoir. Si 800 ans plus tard, il y a quelqu'un qui dirait ce dessin pour essayer de comprendre comment les troubadours à l'époque étaient habillés. Donc on a des images, mais des images qui ne sont pas là pour représenter à l'historien du futur comment étaient les choses. Elles sont là pour représenter l'idéal de celui qui les a. Première fois que je faisais comme ça, c'était pas facile en tout cas. Ça a marché. Donc des instruments, on a aussi des images, mais on ne sait pas exactement comment ils étaient. Et pour essayer d'imaginer comment ils étaient, ben, ma foi, il faut réfléchir à cette autre chose, qui est qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Et c'est important comme idée, mine de rien. La semaine dernière, quand j'ai rapidement évoqué la question de la notation musicale, quelqu'un m'a demandé parmi vous, mais alors, si on ne sait pas exactement lire la partition, comment peut-on être sûr de bien l'interpréter? Et moi j'ai envie de vous dire que ça c'est un concept très moderne. être sûr de bien interpréter la chose en respectant son auteur. C'est une vision qui existe dans les temps modernes et qui n'est absolument pas de l'époque. Pas réussi à ne pas utiliser le mot troubadour, mais le mot Moyen-Âge, même vous le verrez bien. Voilà. Vous l'avez vu, j'ai fait deux essais infructueux, mais normalement ça n'arrive pas, donc ça m'a pris 5 ou 6 secondes finalement pour le faire. Pour quelqu'un d'expérimenté, faire ça, ça prend, je ne parle pas de la finition, hein, mais je parle de la base, ça prend 5 minutes. Le savoir n'est pas. Savoir bien trouver les trous, c'est de savoir bien les disposer. Donc c'est un savoir qui est préalable à la création d'un souffle. Pendant 4 ans, dans un lieu qui s'appelle Salvaterra, à Haute-Rivoire, dans les monts du Lyonnais, qu'on a appelé Centre d'interprétation du Moyen-Âge, je tenais un ensemble d'ateliers autour du jeu, jouer de la musique, jouer avec les mots et jouer à des jeux. Et là, je me suis pris de passion pour un jeu de paume tel que je l'ai inventé, et alors les visiteurs que je recevais me disaient « Mais alors, c'est comme ça qu'on jouait à la paume au Moyen-Âge ?» Et devant la persistance de cette question, la réflexion s'est faite. Alors, absolument pas comme ça qu'il faut imaginer les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on jouait à la paume au Moyen-Âge. D'abord, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien, j'exagère. Je sais qu'il y en a qui tapaient dans une balle pour la faire rouler sur les toits et la récupérer au retour, parce qu'on n'avait pas de balles qui rebondissent. Puis, finalement, il y a eu des balles qui rebondissaient et elles étaient faites avec du cuir bourré de poils de chien, apparemment, et des fabricants d'éteufs, on appelle ça des éteufs parisiens, ont eu tellement de succès qu'au bout d'un moment, il était interdit d'exporter les éteufs en dehors de Paris parce qu'il y avait pénurie dans Paris, donc nécessairement on ne jouait pas des balles qui rebondissent partout. Mais surtout, cette question qui m'était posée correspond au schéma qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des tournois internationaux de tennis. Donc si tous les gars qui arrivent pour jouer, ou les gars qui arrivent pour jouer, arrivent avec une règle différente, on va être bien en mal. Donc évidemment, on a tous la même règle. Puis aujourd'hui, on a des images et des informations qui nous viennent du monde entier. Donc on peut communiquer avec le monde entier, mais c'est le monde entier qui nous intéresse. Mais si je suis au XIIIe siècle, sur ma petite colline, avec les gens de mon village, à jouer à la paume, eh bien, la façon dont je joue, c'est certainement pas la même façon que ceux qui habitent la colline en face. Parce que ceux dont je dois me différencier, c'est ceux qui habitent en face. Donc, j'ai pas les mêmes règles qu'eux. Voilà. Donc, on va pas imaginer la période dont on parle avec l'aspect globalisant avec lequel on imagine notre monde d'aujourd'hui. On ne va pas imaginer, je vous le disais, cette propriété intellectuelle qui amène à vouloir respecter l'œuvre de celui qui en est l'auteur, parce que celui qui est l'auteur, on va le voir, je me dépêche, il n'est l'auteur que de sa façon, de la manière dont lui, il a articulé le texte. Mais il n'est pas l'auteur de l'histoire qui est contenue dans le texte. Et une façon de s'en rapprocher, je pense que c'est ça. C'est expérimenter. C'est pas seulement en lisant les textes qu'on va comprendre cette période-là, c'est en expérimentant. En faisant véritablement, par exemple, le travail de fabrication d'instruments. Alors, si en plus on est un peu musicien, on va se rendre compte des questions qui se posent autour de ça et on va réussir parfaitement à s'approcher d'une éventuelle réalité, mais qui de toute façon ne recoupera pas une généralité. Ce ne sera pas une généralité. Aussi, moi j'ai retourné la question, est-ce qu'on jouait à la paume comme ça au Moyen-Âge? Vu le jeu que j'ai inventé, je dis, est-ce qu'il est possible que personne n'ait joué à ce jeu-là de cette manière-là. Voire plus dans la particularité, dans le particularisme, que dans la généralité. Je reviens au livre, aux valeurs du livre. Je disais donc que c'est un livre qui porte essentiellement, là, jusqu'au troubadour, la parole religieuse, et c'est un livre qui n'est pas accessible à tout le monde. On ne peut pas dire que tout le monde ne sait pas lire. Enfin, tout le monde ne sait pas lire à cette époque-là, mais on a plus en plus de tendance à penser que plus de gens que ce qu'on pensait avant savaient lire finalement à cette époque-là. Mais par contre, avoir un livre et pouvoir le lire, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Pas dire. Et puis ce livre transporte la parole. Il semblerait que pour certains, il suffit d'avoir un livre devant soi, même ne sachant pas lire, et pointer le livre du doigt et dire ce qu'il y a écrit dans le livre, et les autres vont écouter ça comme parole biblique. Je reviens à une question de représentation. Donc, je suis toujours sur ma colline au XIIIe siècle, et je sais à peine ce qui se passe au-delà des collines qui sont autour de moi. Et puis je ne sais pas que je suis au XIIIe siècle. Je ne sais pas quelle année je suis né. La notion du temps pour moi, ce sont les saisons. Et si je suis dans une vie peu aristocratique, ce sont les heures. C'est la notion du temps liée à la religion. Mais je n'ai pas de notion de moi inscrite dans l'histoire avec un grand H. Le livre est une valeur parce que justement, on produit beaucoup d'efforts pour y inscrire quelque chose, mais ce que je reçois avant tout, c'est une tradition orale. Et cette tradition orale, elle est sujette à caution. Parce qu'elle me vient de toi ou de toi, et il faut savoir qui tu es, je ne te donne pas, t'attribue pas l'idée que tu vas me rapporter toute vérité. Et là, il y a encore une autre transposition à mon avis à faire. On a, nous, une vision bien séparée de la fiction et de la réalité. Et je pense que dans l'imaginaire médiéval, cette séparation de fiction et de réalité est à évacuer. Ce qu'on me raconte, que ce soit dans le livre, ou que ce soit un messager qui me l'amène, ou que ce soit quelqu'un de passage, c'est une représentation de la vérité. D'ailleurs, on écrit à l'époque, et on manuscrit des recueils d'exemplats. Les exemplats, ce sont des petites histoires avec un but de convaincre de la foi religieuse, des petites histoires qui sont un petit peu comme des dictons plus longs, hein, des proverbes plus longs, des petites histoires qui sont là à titre exemplaire. Et les romans qui vont être écrits à l'époque sont à mon avis à comprendre un petit peu sous la forme de ces exemples. Hein. Ce sont des exemples d'histoires qui doivent amener à fonder l'imaginaire et se comprendre. L'auteur, celui que nous aujourd'hui on va appeler l'auteur, à l'époque, donc concernant ces champs, on appelait le trouveur. C'est pas quelqu'un qui invente l'histoire, c'est quelqu'un qui lui donne son éloquence. Et si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous me communique une histoire, et que je vais la communiquer ensuite, je peux en changer l'écrit, je peux même en changer des parties. Je ne suis pas là pour respecter ce que l'autre m'a transmis, je suis là pour le retransmettre à travers ce que moi j'en ai reçu. avec qui je suis. Je pense que c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intertextualité concernant la poésie médiévale, mais je pense qu'on aurait bien à en gagner, à en parler de façon plus large d'intertextualité, c'est l'idée que un texte emprunte à d'autres textes, et que pour comprendre ces textes, ben, il faut les lire, les comparer les uns aux autres. Je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui invente tout d'un coup quoi que ce soit comme ça, de façon spontanée, sans avoir un terreau ancien. C'est ce que, à mon avis, comprend tout à fait l'auteur médiéval, que nous ne comprenons plus aujourd'hui en nous arquant sur l'idée de d'être fidèle au texte d'origine et d'être de propriété intellectuelle. Cette prise des trouveurs, réussir enfin à réaliser ce changement de troubadour à trouveur, on parlait de trouveur, cette prise des trouveurs sur la poésie, vous l'avez dit, elle s'inscrit, elle n'est pas née tout à coup, elle s'inscrit dans une longue tradition de l'éloquence. Et l'éloquence, la rhétorique, a été particulièrement, dans les temps anciens, mise en valeur par les sophistes, ceux qui sont capables de créer un discours raisonné sur quelque sujet que ce soit. L'art de plaider une cause, est vraiment au centre de cette poésie. Et je trouve qu'une une de ces expressions à cette époque, cet art de plaider, qui est à la fois amusante et évocatrice, ce sont les procès d'animaux. À l'époque, on fait des procès à des animaux. Une truie qui a créé du désagrément, eh bien, on va l'amener en procès et on va la pendre. C'est très sérieux. Et ça donne l'occasion de plaidoiries très alimentées. On a donc un grand plaisir à plaider et une pleine conscience du pouvoir de la plaidoirie. Je l'ai dit dans la tension, dans la règle de la tension, de la lutte oratoire, il y en a un qui porte le sujet avec les différentes propositions du parti à prendre, et l'un ou les autres qui répondent en choisissant leur parti, et celui qui a proposé le débat n'a plus qu'à défendre le parti restant, qui n'est pas nécessairement le sien. C'est pas grave. C'est pas du parti dans ce qu'il s'agit. C'est de la qualité de la plaidoirie qu'on va développer. Et on peut donc soutenir aisément une chose et son contraire. En comparant cela au fait, ce plaisir de l'éloquence et de la construction d'esprit, au fait que on écrit tout d'un coup plus en latin, mais en langue rustique. Et cette langue rustique, on l'a dit, elle est protéiforme. C'est du gascon, c'est du limousin, c'est du catalan, c'est du niçois, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je n'ai pas plaisir à l'appeler parce que pour moi, cette époque-là, ça n'a pas de sens. C'est la langue rustique, mais elle est diverse. Et elle se particularise. Si en face, vous dites comme ceci, moi, je dis un petit peu différemment. Elle a ses particularités locales. Et elle est pratiquée par des gens qui voyagent. Des gens qui vont administrer leur terre, oui, mais aussi des jongleurs, des goliards, je vais parler de ces clercs itinérants, des marchands, des mercenaires. C'est très difficile à évaluer à l'époque la part de la population itinérante ou nomade, mais à mon avis, elle était assez importante. Donc des gens qui pratiquent cette langue protéiforme dans ses différentes formes à différents moments de leur vie, donc qui ont les échos constamment dans leur imaginaire des différentes prononciations d'un même mot. Et je vous l'ai dit, on trouve
pas mal d'exemples dans cette poésie de textes écrits en plusieurs patois différents, qui jouent vraiment, où on sent cette conscience de la variabilité des mots. Et le chant et la musique et la musicalité sont liés, la parole et la musicalité sont liés. Et les troubadours vont appeler ça l'entremescanum. Le fait de travailler sur les sons et le sens en même temps. L'entremescanum. Troubard, trouver, je l'ai dit, mais aussi troubadour, de trop. Les tropes, ce sont des phrases à la fois poétiques et musicales qui utilisent un sens figuré. Et puis peut-être aussi tabar, en arabe, qui signifie chanter. Et puis peut-être, et surtout pas où. Parce que je trouve que dans notre idée de l'étymologie, comme dans beaucoup de choses, là encore, on segmente. Alors, autant pour moi, ça s'écrit A-U-T-A-N-T ou A-U-T-E-N-P-S. Les deux, mon capitaine, puisqu'il s'agit pour la deuxième d'une solution venant des militaires. Hein, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Autant pour moi, j'en prends autant pour moi, ou bien est-ce que j'étais bien dans le temps, dans une question de mouvance militaire qui aurait été, temps aurait été troublé. Peut-être qu'ils vont se faire des débats pour savoir si ça vient de ceci ou de cela. Des deux. Il y a une floraison des mots, il y a une floraison des expressions, et celles qui perdurent, c'est celles qui ont plus d'écho dans les imaginaires. Tout notre langage est fondé sur des questions d'analogie, de métaphore, de métonymie. Roseau. Calamus. Roseau. Alors, on va appeler calame l'outil dont on se sert pour écrire. On va aussi appeler chalumeau, chalémi, un instrument fait avec une enchère en roseau. Mais on va aussi appeler calmar, un mollusque qui contient de l'encre, comme le calame contient de l'encre. Et comme... Ça, je ne l'ai pas encore trouvé dans mes recherches, mais ça vous dire, donc je me risque. Mais comme on se sert pour contenir de l'encre d'un petit bout de corne, on va appeler le petit calmar un encornet. Vous voyez comment la fondation des mots fonctionne? Elle fonctionne par analogie. Quand je menais ces ateliers autour du jeu, j'en menais donc autour des. De jouer de la musique, jouer des instruments de musique, et à l'époque j'avais un petit djembé. Vous voyez ce que c'est qu'un djembé? Vous le voyez pour l'instant, enfin, il est là. Mais vous ne le touchez pas, vous ne savez pas quoi il est fait, vous voyez, vous imaginez, il n'est pas avec moi, il est là. Et je montrais l'objet, je disais qu'est-ce que c'est? Je disais cet instrument parce que je savais que j'aurais une réponse. Djembé ou tam-tam? C'est un djembé. Et alors, est-ce que c'est médiéval? Non, répondent les gens. Pourquoi? Parce que c'est africain. Première question, l'Afrique n'existe pas au Moyen-Âge. Mais surtout, qu'est-ce qui a permis de reconnaître que c'est un djembé? Sa forme. C'est à ça que les gens reconnaissaient cet instrument. À sa forme, à son image, parce que nous sommes dans une société de l'image. Les images, on en a plein les yeux. Et on va définir les choses d'après leur forme, qui vont nous représenter ce qu'elles sont réellement. Parce que qu'est-ce que c'est réellement? C'est une peau tendue par des cordes sur un fût en bois percé. Est-ce que ça, c'est médiéval? Oui. Un djembé, c'est un tambour, c'est-à-dire un tabour. À l'époque, on dit un tabour. On dit des tamboureurs. Un tambour, tamboureur. De le mot tabouret, parce que les tabours ressemblaient à des tabourets.
djembé que j'avais en main parce que le bois est africain. Mais c'est une question d'aujourd'hui. Tabel, dabel, timbal, tabla. Les tablas, les percussions des Indes, on les voit pas, ceux qui connaissent les instruments musicaux, on les voit bien. Le dabel, c'est une percussion d'Afrique du Nord, le timbal, là on a plutôt un mot de chez nous, mais ça désigne le même principe. La question est de savoir si à travers les mots, on désigne un principe, un imaginaire qui est lié, et qui est limité ce principe, on peut le décliner à l'infini, ou une image fixe. Et ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tendance à voir une forme fixe derrière le mot qui, à l'origine, ne définissait qu'un principe qui, lui, pouvait évoluer. Donc, je ne pense pas qu'il faille chercher l'idée de troubard, troubadour, troubert, troubéor, trouvert, troubéor, dans soit l'étymologie de tropard, soit l'étymologie de tabar, de tarab. Oui, je parle de tabar là, mais c'est tarab. C'est pas dans une opposition l'un ou l'autre, c'est l'ensemble qui crée un terrain favorable à ce qu'un mot ait le plus possible d'écho et perdure. Et peut-être bien que ce qui est a priori la seconde origine de autant pour moi est venu suppléer à la première et non pas s'opposer, hein, comme des universités populaires où on peut concourir plutôt que se concurrencer, est venu suppléer pour ce que ce mot perdure. Pour la question de la langue, je vais juste évoquer, parce que je ne peux pas y résister, un écrit de Hildegard de Bingen, parce que vous avez déjà entendu parler de cette dame, connue pour sa musique, pour sa science, et qui a écrit un livre traitant d'une lingua ignota, c'est-à-dire un livre qui traite d'une langue qu'elle a inventée. Cette personne aujourd'hui est capable de la lire. On peut arriver à deviner quelques éléments. Je vous ai parlé de l'importance d'écrire, du travail que ça représente. Elle a accordé une telle importance à sa langue inventée que ça a été mis par écrit. La semaine dernière, j'ai insisté, je pense un petit peu hors de votre compréhension si vous n'avez jamais lu ces textes, sur cette erreur de traduire communément losangier dans les textes de Troubadour par médisant ou jaloux, alors que la traduction littérale c'est louangeur. Et je l'ai fait pour dire, mais là il y a une erreur qui est faite, à mon avis, qui est triste, qui nous limite. Mais le louangier, c'est des louangeurs, ou si on voulait se rapprocher de cette idée de médisant ou de jaloux, on pourrait dire des flatteurs. Bon, je trouve que louangeur, c'est déjà pas mal. Parce que en disant médisant, il y a une forme de d'adversité, comme si c'était l'ennemi du troubadour, ce serait le louangeur. C'est pas exactement son ennemi, c'est son pendant. Le troubadour est lui aussi un louangeur. C'est quelqu'un qui exerce sa capacité d'éloquence. La question est de savoir à quel service on met cette éloquence. Là, la question entre louangeur et troubadour. Pas qu'il soit médisant, mais c'est une pratique, l'art de bien parler, mais à quel service ? Parce que on est bien dans un imaginaire où l'éloquence a une grande importance, une importance telle qu'on peut développer un discours pour défendre une cause ou son contraire. Je parlais en première conférence de ce prénom Guylaine, de Guillet. À partir de quel moment on peut être certain
que celui qui nous chante ses vers est plutôt un troubadour porté vers une belle cour ou un louangeur. Et il y a constamment dans ces chants de troubadour une notion de parodie. La parodie est inclue dans le texte puisqu'elle est évidente pour l'esprit de l'époque. Ovid, des siècles avant, dans son Art d'aimer, décrit l'art d'aimer dans les deux premiers livres. Il y en a un troisième qui est consacré à reconnaître la femme comme une personne, et fort heureusement, dans les deux premiers livres, il parle de l'art de séduire et l'art de bien savoir entretenir et faire perdurer une relation, c'est-à-dire l'art de convaincre à travers l'idée d'aimer, c'est déjà l'art de convaincre, l'art de l'éloquence, l'art de plaide, qui est là. Si on ajoute à ça le fait que ceux qui colportent ces textes, sans aucun aspect péjoratif ou verbe colporter, sont des jouglas, des joueurs, ceux qui jouent avec les mots, que ceux-ci sont des clercs, très souvent, auxquels on a enseigné la grammaire, la dialectique et la rhétorique avant tout, pour lesquels la compréhension passe avant tout par l'articulation des mots et de la pensée. On imagine bien ce qui va suivre, ce plaisir immense du jeu sur les mots. Alors, je vois que j'ai marqué Calmar et Cornet, ça vous en a déjà parlé, mais j'ai envie de vous parler encore de Balard, Balalaïka, Balavolka et Balalaï. Balard, danser, se balader, une balade, c'est aussi un genre musical, et balalaïka, un instrument de Russie, on est bien loin. Et pour autant, il semble que la transition se fasse assez aisément. Pour balalaïka, on donne balavolka, en russe, c'est parler de façon volubile, être un moulin à parole. Vous connaissez la balalaïka ? Ça se joue tout en vibration et c'est un instrument très volubile. Oui. Et balalaï en roumain, alors ça, j'ai pas double côté, j'ai oublié. C'est très très bien la transition. Je suis quasiment certain, là encore, je me risque qu'il y ait un lien entre l'ancien provençal balard et l'instrument russe qui est la. Balalaïka. Ces mots, leur son, leur chant se transportent. Et nous faisons des différences aujourd'hui très formelles entre les tablas, les timbas, les davuls, comme on fait des différences très formelles entre les mots, parce qu'on a des définitions dans des dictionnaires, et on a des images dans nos albums photo, je ne sais quoi. Mais si on les regarde évoluer, on ne voit pas nécessairement de limites entre eux. Ils sont capables de se répandre de façon très large. Et j'arrive plus à voir, il reste 10 minutes. Enfin, 10 minutes. J'ai déjà dépassé de la minute, mais je suis très vite. Dilemme, comte de Poitou, le premier troubadour connu, je vous le disais, nous a laissé 11 chants, grivois, obscènes, et parfois non, mais qui nous offrent déjà un regard sur l'ensemble de la poésie des troubadours. Je vous en ai parlé en première séance, notamment à travers ce vers de pur néant que ce dilemme de Poitou a composé
que je vous propose d'entendre dans une traduction que j'ai réalisée il y a quelques années déjà avec, avec un ami musicien. Je referai cette traduction un jour parce qu'il y a des erreurs dans le sens, mais pour la compréhension générale, je ne pense pas que ce soit gênant. L'avantage de cette traduction, c'est qu'elle est musicale aussi. Et effectivement, la traduction qu'on en a faite, j'ai très envie de chanter. Heureusement pour vous, je ne suis pas aussi courageux, parce que je chante très mal. Donc, simplement vous la dire. Farai un vers de dei nien. Ferai un vers de pur nien. Non pas de moi, ni d'autres gens, ni de l'amour et des amants, ni d'aucun mot, sinon fut trouvé en dormant sur un bateau. Je ne sais quel je suis né, ne suis ni gai, ni enragé, ne suis sauvage, ni familier, non plus un son, doté la nuit par une fée sur un mot. Je ne sais quand je m'endormis, quand je veille, si on me le dit, de peu me met le cœur parti d'un deuil nouveau, moins insouci que d'une fourmi par Saint-Marceau. Je suis malade et crois mourir, n'en sais pas plus que je lui dis. Cherche remède à mon délire, mais dans quel lot? Bon médecin qui peut guérir, sinon marron. J'ai une amie, j'en suis bien aise. Je ne l'ai vue, j'en ai malaise. Elle n'a rien qui me plaise ou pèse, il ne m'en chaud. Je n'ai ni normand ni française en mon château. Je ne l'ai vue, elle aime fort. Je n'en ai rien eu, pas même un tort. Si je l'évite, j'en ai confort, car rien ne vaut. J'en sais une belle et pleine bonheur, et qui plus vaut. Où elle habite? Je ne sais pas si c'est là-haut ou bien en bas. Je n'ose dire le tort pour moi, et je m'en tais. Ah, je m'attriste qu'elle reste là, quand je m'en vais. Le verre est fait, ne sait de qui, et le transmettrait à celui qui le transmettra pour autrui, jusqu'à Poitiers, pour me remettre le son d'étui à contre-pied. Le verre de pur néant, le verre ne parle rien, ni de lui, ni d'autres gens, ni d'aucun sujet que ce soit. Il parle du verre lui-même. Puis en même temps, je ne suis pas lancé dans une interprétation théâtrale, mais si je le faisais, j'ai déjà fait un petit peu parce que j'ai croisé essentiellement des regards de dames. Il est tout à fait jouable et avec beaucoup de sens, ce texte, comme une minauderie, comme une envie d'aller courtiser un peu par ici, courtiser un peu par là, toujours en se plaignant, ah, celle-ci c'est pas un bon médecin, mais j'en connais une autre, etc. Il y a quelque chose de très très léger. Et il y a une relation absolue au langage, pour le langage lui-même. Donc une recherche de la langue, une interrogation de la langue, des sons, de ce qu'ils évoquent, et qui atteint une telle richesse chez ces troubadours, qu'on trouve chez ces trouveurs, assez rapidement, une forme d'opposition entre un troubard Clous et un troubard Léo. Un troubard clus, obscur, enfermé sur lui-même, ou un troubard Léo, limpide, clair, léger. J'aurais bien aimé vous lire, mais bon, je vous invite à vous lire. Il y a un recueil, une édition quasiment complète des Pidas des Troubadours dans le livre de poche qui se trouve, et vous pouvez trouver la Pida de Rimbaud d'Orange, qui était l'amant de la comtesse de Guy, dont je vous ai donné un texte la semaine dernière, et parmi ses amants, il y a celle-ci, puisque dans le texte que je vous donnais, ce n'est pas celle-ci dont il s'agit, et de Guiraud de Bormeil, qui était considéré comme l'un des plus grands, voire le plus grand troubadour à son époque, et tous les deux s'exercent à une tension sur ce sujet-là. Diderot demandant à son ami pour lequel il a un signal, un nom secret, l'ignore, pourquoi fais-tu des rimes si obscures? Moi, je préfère faire des rimes claires pour qu'elles puissent être apprises, pour que le chant puisse être appris par tout le monde et qu'il puisse être transmis. Et Rimbaud d'Orange, lui, défend le fait de faire quelque chose qui est une vraie valeur, qui ne soit pas jeté en pâture à la compréhension de tous. Quand on lit cette chanson, après moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est qu'elle est préparée. Ils se sont distribués les rôles, ils sont là pour mettre en valeur le pour et le contre de chaque position. Enfin voilà, je veux vous faire entendre un texte de ce Rimbaud d'Orange, un représentant du Troubard Plus, de ce Troubard obscur, et en vous disant tout de suite que vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas grand-chose, voire rien du tout. C'est du Troubard Plus. Mais j'espère, et en général ça fonctionne, que ça va parler suffisamment à vos imaginaires. Puis peut-être, après je m'attarderai sur un couplet, mais bonjour, je voudrais dire. Il y a plusieurs lectures à ce texte. Je vais vous donner dans une traduction d'un mathématicien, Jacques Robot. J'ai mis en lien sur le site et vous allez aussi y aller avec vous. Je l'ai fait vite, je l'ai trouvé qu'une seule fois sur un lien internet. Et c'est pas la traduction n'est pas exacte, n'est pas celle de Jacques Robot, donc qui était un mathématicien. Et qui l'a traduit ainsi. Il s'adressait à Jongleur, ça ne m'étonne pas, c'est de dire en l'occurrence, c'est Maria de Perfeuille, qui l'appelle, par le signal, le Jongleur, son Jongleur. Et c'est sous une forme poétique qui existe déjà, qui a dû exister sous d'autres formes qui ne sont pas parvenues, où il reprend les mêmes mots pour faire la rime à chaque couplet. Mais il n'y a pas de rime interne dans le couplet. C'est un mot simplement qu'on va retrouver à chaque couplet en fin de vers et puis on va faire la rime. Alors brille la fleur inverse entre falaises tranchantes et collines. Quelle fleur, neige, gel et glace, qui coupe tourmente étrange, dont meurt à peine chant, cri et siffle, en feuilles, en rameaux et en branches, mais me tient vert la joyeuse joie, et sec et douloureux les corps. Ainsi, toute chose j'inverse, belle plaine pour moi colline, et la fleur pour moi est glace, pour moi la chaleur est un froid qui tranche, et le tonnerre chante et siffle, les feuilles se couvrent de branches. Ainsi, ferme, enlacé de joie, je ne vois plus rien des corps. Mais l'espèce des fadas inverses, qui furent élevées en colline, me font plus de mal que la glace. Il parle d'une voix qui tranche, il parle bas, et bas siffle, rien n'y fait, ni bâton, ni branche, ni menace, c'est leur joie, faire ce qui les rend corbeaux. Vous embrassant, je vous renverse d'âme, ni plaine, ni colline ne m'en empêche, ni gel, ni glace, mais le non-pouvoir m'en retranche, d'âme pour qui je chante et siffle. Vos yeux beaux sont pour moi branches, qui me fouette si je dis ma joie, et je n'ose mes désirs corbeaux. J'ai fouillé comme une chose inverse, moi, val, crevasses et collines, tourmenté comme un que la glace bouscule, torture, étrange. Ne me vainquent les chants qui sifflent, pas plus qu'un jeune clair battu de branches, quand enfin, par Dieu, mes berges joies, malgré les mauvais élans, aïe mes vers, qu'ainsi j'inverse, que ne les tienne ni bois ni colline, là où nul ne ressent la glace, là où nul pouvoir du froid ne tranche, à madame qui chante si peu, si claire, qu'au cœur entre la branche, celle qui sait chanter la joie et qui ne veut pas d'un chant corbeau. Douce dame, qu'amour et joie nous joignent malgré les corbeaux, jongleur, j'ai bien moins de joie sans vous voir, mon visage est corbeau. Pour l'aspect trivial, simplement, si vous avez l'occasion de le relire, pensez en termes de physique féminin à l'idée de colline et de crevasse.
Qu'est-ce que je ne peux pas éviter de vous dire?
Oui, bon, il y a une tension du néant qui est aussi très chouette à lire, c'est-à-dire une joute où il y a un troubadour et une mairie de Pénilan qui en provoque un autre, à l'Alberta de Cisteron, qui ont l'idée de jouter sur le sujet du néant. Et je fais dans mon esprit un lien entre ces différents sujets que sont donc l'inversion, qui était un des sujets de ce texte que je viens de dire, les choses s'inversent. On peut avoir froid quand il fait chaud, on peut avoir chaud quand il fait froid, se sentir heureux alors qu'un drame vient de venir. L'idée de les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, qu'on retrouve abondamment dans cette poésie, et qui est aussi abondamment dans les, qu'on appelle le cycle du Graal, les contes arthuriens, les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises, et tout est néant. Pour faire simple, si les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises dans leur essence, nous les recevons comme bonnes ou mauvaises. Et on peut les recevoir de façon inverse. Il y a là l'ouverture vers un champ d'investigation. Les choses n'étant pas définies, c'est moi, à travers mon comportement, à travers mes actions, à travers la manière dont je les ressens, qui vont faire qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Il y a quelques années, je commençais à étudier ces champs de troubadour et j'ai été invité par une compagnie de théâtre dans laquelle j'aime mes amis, à écrire un texte sur, à propos de Merlin l'Enchanteur, qui n'était pas le personnage qui m'intéressait, moi c'est Perceval qui me fascine, on s'est compte, mais bon, je l'ai fait, et sachant que c'était un texte de théâtre qui allait être destiné à des collégiens, je me suis dit, bon, voilà, terminé par une morale assez simple à saisir, or... quelle est l'histoire de Merlin? Eh bien, Merlin, c'est un personnage inventé par le diable via un démon qui va engrosser une terrienne pour semer la zizanie parmi les humains. Comment? Ben, parce que le diable dote Merlin du pouvoir de savoir ce qui s'est passé. Et donc Merlin, dès qu'il va naître, il va se mettre à raconter « Toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça. » Puis les gens se sont cachés les choses les uns aux autres. La zizanie commence tout de suite à se manifester. Seulement Dieu, qui lui a anticipé cette affaire, a doté Merlin d'un autre pouvoir, c'est de savoir ce qui va arriver ensuite. Et donc là, Merlin, lui, sait ce qui va arriver. Il n'a plus du tout envie d'agir pour la zizanie. Et bon, je m'étais appuyé sur cette question toute simple. Merlin enseigne à Viviane toute sa magie. Viviane finit par le pouvoir de la magie que Merlin lui a enseigné par l'enfermer dans une grotte. Et alors, j'ai terminé ce texte en disant, mais alors,
Merlin, pourquoi as-tu agi ainsi? Puisque tu savais ce qui allait arriver, pourquoi as-tu donné ce pouvoir-là à Viviane? Et Merlin répond, mais je ne pouvais pas intervenir sur ce qui sera, mais je pouvais intervenir sur la manière dont les choses déroulent jusqu'à ce que ça soit. L'histoire, je vous l'ai dit, n'est pas la prétention de l'auteur. L'auteur ne fait que la recevoir et la transmettre et y appliquer sa marque. L'histoire est non finie. Ce n'est pas une invention de l'esprit pour rentrer au sujet, absolument. Je t'assure que c'est présent dans cette littérature d'un bout à l'autre et on se pose parfois, souvent pour certains, des questions sur des romans de l'époque qui nous sont parvenus, abîmés, inachevés, ou peut-être volontairement non finis. Ce qui me fascine, lisez Perceval, si vous n'avez pas lu Perceval de Chrétien de Troyes, lisez Perceval, c'est absolument merveilleux, c'est plein d'humour, c'est extraordinaire. Qui a lu Perceval parmi vous? Je ne sais pas, le temps de voir. Pour les autres, rien que l'introduction, vous serez séduit. Perceval qui rencontre les chevaliers pour la première fois dans sa vie, c'est extraordinaire. Comme là, c'est un éloge de la vie. Mais il y a une scène dans Perceval qui est particulièrement importante, où Perceval cherche le Graal, et il assiste au service du Graal. Il est là. Il a trouvé ce que tous les chevaliers de la table ronde cherchent. On sert le Graal avec la lance qui saigne. Il regarde ça. Ça se passe et il s'en va. Et c'est le drame pour tout le royaume du roi Arthur. C'est la fin des aventures merveilleuses. Parce que Perceval n'a pas posé la question. À qui sert-on le Graal? Voilà, je voulais juste vous évoquer. Parce qu'il faudra encore du temps pour développer ce que ça m'évoque. J'espère que ça vous évoque des choses. Tout ce qui peut tenir là à une question qui est posée ou pas posée. Et l'attitude bien compréhensible de ce Perceval émerveillé. Je ne pense pas à ce moment-là qu'il pose une question. Je vais terminer en répondant à la question qui m'a très gêné la semaine dernière, quelle est la place des femmes dans le chant de troubadour. C'est une question de poésie, c'est une question de création de sens à laquelle participent différents auteurs. Et comme dans la plupart des temps, et bien la plupart, on sent une certaine misogynie dans leurs écrits. C'est une façon de répondre. Pour moi, elle n'est pas intéressante. Parce que je pense que la question de la misogynie ou du machisme n'est pas une question de femme ou d'homme, mais une question de relation entre les femmes et les hommes. Et donc, ce n'est pas parce qu'on sent dans la trivialité qui est présente dans ces écrits parfois l'expression d'une certaine misogynie que les gens sont effectivement misogynes. Par contre, ce qu'a fait cette poésie, c'est qu'elle a placé un amour terrestre au sommet de son idéal. Et en faisant ça, elle a certainement féminisé la culture de l'époque. Elle a placé l'amour terrestre au-dessus de tout. Ah! Je le fais, je vous dis encore. Voilà, ce que je voulais remercier rapidement trois personnes. L'une qui est Thierry Cornillon, qui organise un festival Troubaréal à Rue Troubadour dans l'arrière-Pays-Niçois, qui est une merveille, parce que c'est un festival de courtoisie, et que là se retrouvent des gens qui sont passionnés de cette poésie, qui la chantent, et ce qui est extraordinaire, c'est de retrouver chez eux des manières qui sont en tout cas ce que la courtoisie était faite. J'avais envie de remercier Céline Magrini, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses autour de ces troubadours, et notamment
très bonne traduction, mais cette expression qui revient chez elle souvent, qui est gravité légère, et qui est parfaitement en lien avec le dernier petit clin d'œil à mon ami Tanguy qui m'a invité à venir faire ses conférences ici. Et c'était très amusant il y a un certain nombre d'années, alors qu'on ne s'était pas vu pendant un grand nombre d'années avant, on s'est retrouvés à Nancy, et comme on le faisait souvent déjà avant, on s'est retrouvés dans une librairie, et on voguait sur les différents titres, et je tombe sur celui-ci, Le Gai Savoir, je dis zut, moi j'ai bien lu Nietzsche, et je ne savais pas qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Le Gai Savoir, c'est la suite directe du Magnum, la Gaia Scienza, cette joie de l'esprit qui se révèle à travers la poésie. Et il m'a dit, ce cher ami Tanguy, ben c'est étonnant parce qu'il y a là un petit article que je lis souvent à mes étudiants en première année et qui dit ceci. Prendre au sérieux. L'intellect, chez la plupart, est une machine embarrassante, sinistre et grinçante, que l'on désespère de mettre en marche. Il parle de prendre la chose au sérieux. Dès qu'au moyen de cette machine, il s'avise de travailler et bien penser. Oh, que de pénibles efforts doit leur coûter l'acte de bien penser. L'aimable brute homme perd à chaque fois sa bonne humeur à ce qu'il paraît quand elle se met à bien penser. Elle se fait sérieuse. Et là où ne prévalent que rire et gaieté, là où on pense à tort et à travers, tel est le préjugé de cette brute sérieuse à l'égard de tout, bien savoir. Eh bien, montrons que c'est un préjugé. Et pour finir ce remerciement, je vous remercie.